Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le programme que vous allez écouter est une rediffusion.
Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. 14e édition de Radio Scénique, votre magazine de théâtre contemporain sur Aligre FM 93.1. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Non, pas un humain au sens général, mais un homme, un être masculin. C'est la question sur laquelle s'est penché notre invité, Michael Delis, au point d'en tirer non pas une pièce, mais une trilogie qu'il présentera seul, en scène, prochainement au Théâtre de la Reine Blanche. Alors est-il arrivé à faire le tour de la question de la masculinité, de cette douloureuse question d'être un homme ? C'est ce qu'on lui demandera tout à l'heure. Singulièrement, il semblerait que les premières à s'être posé la question du masculin, ce sont les femmes, et c'est une femme qui nous le dira. Loïse Galland, notre nouvelle venue dans l'équipe, en a tiré une chronique, elle nous soumettra ses réflexions. C'est la semaine du Japon sur Aligre et c'est un comédien et metteur en scène connaisseur du théâtre japonais qui viendra nous en parler. Jérôme Vaquier sera avec nous au téléphone. Il a séjourné et étudié au pays du soleil levant. Il nous en dira plus sur cet art. Pascal Dutertre, bonjour. Votre chronique de l'architecture théâtrale continue à nous faire remonter le temps.
Oui, en effet, Eric, après la Grèce, je vous propose de regarder à quoi ressemble un théâtre antique romain. Vous verrez, ce n'est pas tout à fait pareil, mais pas complètement différent non plus.
Vous voilà bien énigmatique, Pascal. De toute façon, c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons et peut-être aurai-je retrouvé ma voix d'ici la fin de l'émission. Vous avez le programme, éteignez vos portables, voici venu Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, Michael Delis, vous voici de retour sur scène après la fête du slip, pièce sur la virilité sexuelle d'ailleurs. Voici les paillettes de la réussite, le troisième épisode de ce que vous appelez la trilogie du troisième type. Mais découvrons pour le moment un extrait du premier sexe, votre première pièce, et celle avec laquelle nous vous avions découvert. Michael Delis, le premier sexe ou la grande arnaque de la virilité, extrait.
Tous les hommes sont des salauds, Michael. Des bêtes bouffies d'orgueil obsédées par leur vice, voilà ce qu'ils sont. De toute façon, le prochain qui me touche, je te jure, je le tue. Dans le départ de ton père, je vais me perdre. Comme si la dépression ne suffisait pas, choc psychologique, ménopause à 35 ans. À 35 ans, putain. Il m'a déglingué, le salaud. Ça et ma grossesse. Allongée dès le troisième mois à cause de mes jumeaux, décalcification, trouble du cœur, abattre pour trois, enfin quatre avec ton père, le mien n'y comprenait plus rien. Voilà ce qu'ils font aux filles, les garçons, ils détruisent tout avec leur bite pleine de foutre.
Maman, c'est pas bien de dire des gros mots.
La vérité est un gros mot, maman, ce n'est pas de ma faute. Attends, y habitue tes oreilles tout de suite, tu sais, parce que le monde n'est pas beau. Je crois que je voudrais aller faire popo.
Va, maman.
C'est juste un mauvais soir, hein. Demain ça ira mieux, mon cœur. Maman n'aime pas l'hiver et cette nuit fait très froid. Si tu as besoin, il y a un tube de Lexomil à côté du bidet, tu prends une petite barrette avant le coucher. Je t'aime, mon ange. Maman t'aime très fort.
C'était ma mère. Il y a eu d'autres femmes très importantes comme ça. Ma grand-mère, la meilleure amie de maman. Le paysage de mon enfance a été peuplé d'une armée d'Amazones. Belles, fières, indépendantes, en fait ce sont elles qui m'ont élevée.
Comment m'y retrouver, moi, dans tout ça ? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de mon genre ? Et qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ce sexe ? C'est 5 à 25 cm de chair par grand vent, souvent si molle et si fragile. Qu'en faire ?
Michael Delis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, metteur en scène, danseur, auteur de scénarios pour la pub et bien d'autres choses encore. Dans l'extrait que l'on entend, un extrait du premier sexe ou la grande arnaque de la virilité, on entend là une mère franchement dépressive qui parle au personnage de Michael,
oui,
son fils,
tout à fait.
Qui est censé avoir 7 ans. Elle s'encombre pas de formalités, c'est direct. Hein.
Non, le langage et l'expression étaient de tout temps et a été de tout temps au cœur et elle était frontale, transparente, vitale et nécessaire. Bon, débordante parfois, je le concède.
Vous êtes en train d'aborder un thème que je n'avais pas forcément prévu d'aborder, cette autobiographie.
Oui, effectivement. Je dirais que le curseur entre la fiction et le réel varie entre 60 et 85% en fonction des personnages, mais le gros du matériau est effectivement autobio. Ouais.
Alors justement, comment est-ce qu'elle est née cette saga sur l'homme, sur la masculinité ? Parce que là, on démarre, et vous démarrez presque le spectacle, ce spectacle-là avec ça, avec la figure de la mère, une mère... Une matrone. J'allais dire matrone, une reine mère.
Une reine mère, c'est beaucoup mieux, c'est parfait. C'est une reine mère, ouais, c'est une queen. Mais qui, effectivement, dans le premier volet notamment, peut avoir cette dimension un peu impressionnante, voire effrayante, pour qui n'est pas coutumier d'une langue un peu alerte et libre. Mais qui va ne cesser d'évoluer dans les trois volets. Et on ouvre par ce personnage-là, d'une part parce qu'elle est fondamentale dans l'existence, et qu'elle vient aussi raconter la présence des mères, ce que je développe dans le troisième volet, dans les paillettes de leur vie, et en creux l'absence des pères, et comment ce rapport au don du temps, de la générosité et du cœur s'oppose au rapport plus comptable du père qui va ici changer un biberon, préparer un biberon, changer une couche, donner un peu d'argent. Donc d'opposer ce rapport-là. Et la mère aussi, c'était une façon de transitionner sur le fait que les pièces précédentes étaient toujours assez empreintes d'une réflexion sur le féminisme, jusqu'à ce qu'une de mes copines metteuses en scène me dise « Bon, quand est-ce que tu t'occupes de ta bite ?» Parce que nous, on sait très bien défendre nos chattes, je cite, c'était un peu cash, mais en même temps, c'était intéressant de dire que, effectivement, le continent de la masculinité était plutôt inexploré, et surtout par les hommes. Et donc, j'ai eu, du coup, grâce à elle, cet impulse pour me dire, tiens, mais prenons en charge ce continent-là, quoi.
C'est comme ça que vous est venue cette réflexion de vous dire, bah, et moi, là-dedans, où je suis ? J'ai parlé des femmes, elles en ont besoin, mais finalement, est-ce que moi, enfin, l'homme que je suis, et on va dire quel homme, c'est un homme qui aime les hommes.
Hein. Oui, c'est un homme qui aime les hommes. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une donnée qu'on distille, même s'il y a des petits indices, mais qu'on donne après
quasiment aux deux tiers du spectacle. Elle arrive pas tout de suite, c'est une surprise.
Complètement. L'idée, c'est d'être le plus universalisant et, possible et de ne pas réduire cette considération-là à un point de vue d'homosexuel. Parce qu'il me semble que la masculinité est bien plus large que celle d'une minorité sexuelle. Et donc, cette réflexion-là, elle est ancrée depuis longtemps. Et il y a une sorte de choc quand je suis moi en prépa et que je découvre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et que je me dis, mais oh, c'est extraordinaire cette pensée.
D'où votre allusion à Simone de Beauvoir dans le titre du spectacle,
qui est un pendant.
Le premier sexe.
L'idée, c'était vraiment de faire un pendant, notamment au deuxième volume, dont le sommaire va de l'enfance à la femme libérée en 8 chapitres. Et je voulais faire exactement la même chose, de l'enfance, la mienne, d'où cette première scène qu'on a entendue, à l'homme libéré, en passant par tous les que ce soit la jeune femme, la prostituée, la lesbienne, la mère. Donc voilà, c'était de passer par tous ces chapitres-là au masculin. Et c'est vrai que je trouvais dommageable et regrettable qu'il n'y ait pas un ouvrage de la même épaisseur, de la même teneur. Et je me disais, mais il y avait quand même une histoire avec Sartre, pourquoi Sartre s'est pas piqué de faire un premier sexe philosophico-sociologique et humaniste. Donc, l'idée de dire que je serais Sartre.
Mais oui, Michael Delis, nouvelle Simone de Beauvoir.
En tout cas, je lui dois énormément. Elle fait partie de ces autrices fondatrices du féminisme, à laquelle s'ajoutent aujourd'hui des Dépentes, des Butler et des autrices plus contemporaines. Mais oui, c'est un pilier, une cheville de bascule énorme dans la pensée du genre.
C'est une question que je pose assez régulièrement ici, parce qu'on a beaucoup de ces récits pseudo-autobiographiques, de ces fictions, ces autofictions. Comment on fait pour que ce soit universel et que ce soit pas la petite histoire de Michael Delis, 40 ans homosexuel, les rapports avec ma maman, parce que c'est loin d'être ça, on rit beaucoup.
Oui, alors là, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc effectivement, l'idée du rapport à l'universel, et pour moi, je trouve que le prisme de l'intime est une super porte d'entrée pour jouer sur des jeux d'échelle. Et pour contourner ce côté un peu narcissique de ma vie, mon œuvre, mon nombril et mes amants, c'est un peu ce syndrome de bon élève que j'ai, où j'ai besoin d'accumuler beaucoup de matériaux pour me rendre un peu légitime sur un sujet, à plus forte raison quand il implique de la pensée sociale. Donc il y a beaucoup d'ouvrages théoriques et critiques, à commencer par Simone de Beauvoir, pour muscler la pensée et m'offrir d'ouvrir les perspectives et donc faire des allers-retours sans cesse entre moi, mon petit parcours d'être humain et ce que j'intuitionne de carcans plus larges, sociaux, qui ne me concernent pas que moi. Donc c'est par ces allers-retours-là.
J'ai envie de vous faire écouter un extrait de quelque chose qu'on va découvrir. J'en laisse la surprise à nos auditeurs et à vous-même en écoute.
Le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise. Alors, je vois pas du tout comment ça pourrait être générateur de plaisir, l'idée de se dire qu'on est inférieur en particulier. Selon moi, ça peut être générateur que de gêne ou de frigidité. Et de même, l'idée d'être supérieur, c'est vraiment le sentiment bourgeois le plus réactionnaire qui d'ailleurs te cache tous les plaisirs que tu peux. Parce que l'idée de supériorité était liée au rôle de mâle. Alors en particulier pour les hommes, il est effectif que la plupart des hommes ne sont pas homosexuels précisément parce qu'ils auraient l'impression qu'ils remettraient en question leur supériorité de mâle. Eh bien, précisément, ce que nous, on essaie de montrer, ce qu'on montre pratiquement, que ça n'est pas qu'on veut détruire les rôles en tant qu'ils entraînent des relations de pouvoir, que pour détruire ces relations de pouvoir, il va falloir qu'on commence par introduire des relations de pouvoir avec tous les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les hétéros, dont un certain nombre d'entre eux sont des hétéroflics, au sens où ils veulent imposer leur morale à tout le monde. Mais je pense pas du tout que les relations sexuelles soient nécessairement des relations de pouvoir, les relations d'amour soient nécessairement des relations de pouvoir et d'oppression, ça me paraît vraiment une théorie complètement réactionnaire.
Moi, il me plaît de me foutre à plat et de me faire baiser. Bon, ça n'est pas encore... Je suis pas libéré encore, justement. Le phare, j'espère, va m'en libérer. Mais oui, bah, c'est vrai. Il n'y a pas à mentir. Je suis pas libéré à ce niveau-là. Mais je sais très bien que ce rôle, je peux me l'appliquer. Parce que j'ai chez moi un désir en creux autant qu'un désir en plein. Et c'est pas la société qui a à me l'imposer. C'est la société m'a imposé d'être un fort à bras. Mais j'en ai ras-le-bol d'être un fier à bras. C'est tout. Parce que mon rôle sexuel, il n'est pas applicable sur le rôle social. C'est pas vrai.
Il y a beaucoup de choses dans cet extrait d'un documentaire sur le phare, le fond homosexuel d'Action Révolutionnaire. Ça date de 1971. On a un discours clairement militant, clairement social. Est-ce que votre spectacle, est-ce que votre trilogie est une trilogie militante ?
Alors,
sur l'homme, sur la femme, sur l'homosexualité.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'explore des sujets dont le militantisme s'est emparé avec beaucoup de courage, mais que le traitement que j'en fais, notamment par l'humour, vous en parliez tout à l'heure, est moins, je dirais, frontal. L'idée du théâtre et de l'écriture et de la littérature, c'est d'apporter justement une petite prise de recul qui peut permettre de poétiser, de mettre du sourire, de la légèreté. Je trouve que dans le discours militant, il y a le...
On se prend très dimension, au sérieux. Oui,
puis surtout la dimension de la colère qui peut rendre le discours très inaudible et que je trouve qu'écrire depuis la colère peut provoquer des œuvres qui peuvent laisser le spectateur sur le banc de touche en se sentant un peu con, en se faisant engueuler ou moraliser.
J'ai envie de revenir justement sur cette question de colère. Ce personnage, ce petit Michael de 7 ans qui se fait apostropher par sa mère qui lui propose des anxiolytiques, il est jamais en colère. Il est doux. Il est. C'est le bon élève.
C'est un bon élève. C'est un enfant qui a été adoré par sa mère, sa grand-mère, son frère.
Un enfant qui a un frère jumeau, d'ailleurs.
Complètement. Et qui on a une relation splendide aujourd'hui. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le moment où j'écris ce texte-là, c'est un moment où je vais bien. La psychanalyse est passée par là. Le temps a fait son œuvre.
La scène aussi.
Bien sûr, mon boulot qui est merveilleux, qui est une sorte de catharsis à ciel ouvert. Et donc, par voie de conséquence, c'est vrai que ça m'a permis moi aussi d'avoir un recul, une autodérision, ça qui était vraiment un sport de famille, ce qui fait que il n'était pas besoin de venir taper sur les autres pour dire ça va mal, mais au contraire dire en fait voilà, là je parle depuis un moment de tendresse et de douceur dans lequel je peux inviter autrui à réfléchir, dans lesquels je peux embarquer les gens dans un truc un peu plus grand et large que moi.
Michael Delis, cette notion de virilité que vous développez, elle a inspiré Loïs Galland, notre chroniqueuse. C'est intéressant d'avoir un point de vue féminin, finalement.
Indispensable.
Parce qu'un homme qui parle des hommes, qui parle des hommes, qui sort avec des hommes, sortons un petit peu du cercle et écoutons Loïs. Loïs, c'est à vous.
Alors moi, la semaine dernière, je suis tombée sur un article qui disait que la masculinité se perdait et même qu'on était en train de la tuer. Comme j'ai vu que tout le monde avait l'air hyper inquiet autour de moi, j'ai voulu aider à mon niveau. Alors j'ai commencé une petite enquête, j'ai interrogé mes témoins. Je leur ai demandé quand est-ce qu'ils l'avaient vu pour la dernière fois, la masculinité. Et j'ai aussi demandé un portrait robot, histoire d'être sûr de la reconnaître si jamais je venais à la croiser. Et c'est là que ça a coincé. À la question « qu'est-ce que la masculinité ?», je récolte dans 95% des cas de véritables anti-réponses.
Oui, alors, précisons, vous m'avez demandé, avant l'émission, qu'est-ce que je fais si je tousse ? Eh bien, continue votre chronique.
Voilà, c'est le moment. Voilà. des véritables anti-réponses, parce qu'en face de moi, le témoin se met toujours à bafouiller sur ce que n'est pas la masculinité. On me dit, non, mais les hommes, c'est pas forcément des Tom Cruise et des Vin Diesel. Hein. Oui, bien sûr qu'un mec qui a les cheveux longs peut être masculin. Moi, j'ai un très bon ami, enfin plutôt un pote, quoi, on s'entend, qui met du vernis à ongles. Avec ça, on est bien avancé et je crois qu'on peut citer une bonne vingtaine d'objets qui ne définissent pas la masculinité. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Pas vrai, Eric ?
Oui, au final, on n'est pas plus avancé, ma chère Louise. C'est quoi la masculinité ? Finalement, c'est ça la question, le noyau de l'affaire.
Et bien justement, j'ai voulu m'inspirer de votre émission pour travailler un peu la question de mon côté. De ce qu'on en avait dit à ce moment-là, on avait parlé de la masculinité à travers le théâtre. Moi, je trouvais l'idée géniale, alors ni une ni deux, je suis allée me renseigner sur cette question de masculinité dans le monde du théâtre. J'ai pas voulu prendre trop de risques, alors je me suis concentrée sur le théâtre grec, parce qu'on le connaît tous, au moins de nom. Et là, jackpot. Je me suis rendu compte que non seulement le masculin y était déjà représenté, mais en plus et surtout, c'était justement le seul à y être représenté. Alors attention, il y avait quand même des rôles féminins. Antigone, Médée, Phèdre. On peut pas non plus dire que les femmes étaient exclues. Ou si, peut-être. On peut le dire, en fait. Maintenant, fermez les yeux, imaginez un peu. Une grande silhouette drapée, des paupières couvertes de fard, une paire de gants de soie et, au-dessus des lèvres peintes, une moustache mal rasée. La démarche qui se veut féminine et les gestes maladroits d'un acteur qui imite, de quel droit, ce qu'il pense être la femme. Parce que oui, à l'époque du théâtre antique, les rôles féminins étaient joués par les hommes. Moi, en réalité, ça me pousse à me demander, est-ce que la question de la masculinité est si épineuse qu'il est plus safe pour un homme de singer, de caricaturer une féminité, que de représenter, dans toute sa nuance, sa masculinité à lui? Et est-ce qu'on pourra un jour la définir, cette masculinité, sans jouer au jeu de son contraire? L'homme sera-t-il enfin autre chose que l'antimatière de la femme? Je suppose que la question reste ouverte.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, aujourd'hui nous recevons Michael Delis qui présentera bientôt sa trilogie sur la masculinité, d'où notre programmation musicale. Et merci à Pierre Demkoff qui présentera bientôt sa trilogie au théâtre de la Reine Blanche puis à Avignon. On a pour le moment essentiellement développé et évoqué le premier sexe, mais décidément j'ai un problème avec ce mot. Hein.
Mais beaucoup de gens ont un problème pour se mettre ce mot en bouche, là, étonnamment.
Mais vous avez développé la thématique sous deux autres volets. Ouais. Il y a tellement à dire que ça sur la masculinité.
Non mais je pourrais faire une heptalogie en réalité. Il y a énormément à dire et surtout que, heureusement, on est dans un moment là où on peut voir que cette parole émerge. Et donc, du coup, il y a tellement de choses qui ont été silenciées que, oui, il y a des mallettes de choses à réfléchir. Et pour rebondir sur la chronique juste avant, si on veut avoir une pensée qui n'est pas binaire et qui n'est pas que dans l'opposition, la nuance qui est ce dont manque tellement cruellement notre époque, mérite justement ce développement-là. Et moi, c'est ce qui m'est apparu rapidement quand j'ai fait le premier sexe. D'une part, je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à faire un seul en scène, parce qu'avant, je faisais des pièces avec beaucoup de
monde. Oui, c'est pas frustrant, justement, d'être tout seul.
Non, c'est génial.
Enfin, vous n'êtes pas tout seul, vous avez
déjà
plusieurs personnages.
On est une quarantaine sur la trilogie à peu près. Quand on fait un seul en scène, je dis que c'est toujours un beaucoup en coulisses, parce que j'ai une équipe merveilleuse entre les co-metteurs en scène, le chorégraphe, les assistants, et les
votre
créateurs
qui n'est jamais, et votre frère qui n'est jamais loin.
Qui est toujours là pour le dernier regard, indispensable. Donc, du coup, il y a du monde et c'est très joyeux. Et c'est vrai que l'exercice m'a vraiment fasciné, parce que dans le rapport du don au public et de l'échange, c'est quelque chose qui est assez inégalable. Et donc, sortant de ce premier sexe, je me dis, ok, j'ai pu gérer la question du genre à peu près, en tout cas l'exploration l'explorer, l'investiguer.
Le genre et le sexe, vous abordez les deux.
Le genre, oui, et la sexualité, bien sûr, mais qui sous le prisme du genre. Ce qui fait que, après cette thématique-là, j'ai voulu resserrer la focale sur le sexe biologique masculin, notamment autour de la question de la performance. On a tout indexé sur la pensée, la représentation, l'iconographie, sur ce sexe dur, érigé, pénétrant, conquérant. Alors que, comme je le disais à Avignon dans les rues, pour inviter les gens à venir voir le spectacle, nos verges sont molles 99% du temps. Donc pourquoi ne pas indexer le monde sur la tendresse et ou la mollesse, et un truc plus doux. Et donc c'est un questionnement sur la performance, et donc en creux sur l'accueil de la vulnérabilité de la tendresse. Et ensuite, avec cet effet de zoom, dans le troisième volet, les paillettes de leur vie, j'ai voulu interroger les testicules et leur contenu, après la verge. Et donc, pour interroger la semence, et donc, par ce biais-là, la transmission, la figure du père.
Donnez le titre et son sous-titre.
Les paillettes de leur vie ou la paix des ménages.
Oui, systématiquement, vos spectacles ont un titre et un sous-titre.
C'est des petits haïkus. Voilà, la fête du slip ou le pipeau de la puissance, parce que si je dis que la fête du slip, je pense que 80% de mon public s'en va en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce massin potache, ce truc potache ?» Donc l'idée, c'était aussi de dire qu'il y avait un peu plus en termes de réflexion. Et parce que je suis un bavard, je crois que ça s'entend, et parce que j'ai justement, dans tout, j'aime donner des indices, de la nuance et faceter un peu l'objet. Quoi.
Est-ce qu'avec vos spectacles, vous transportez une vision de la société que vous souhaiteriez voir
sinon adopter. Une vision, en tout cas, oui, un désir de vouloir arrondir le rapport entre les êtres, de vouloir partager cette joie-là que j'ai quand je vous dis que je parle depuis la non-colère, c'est qu'il y a, c'est des récits d'émancipation, et qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être bien dans mes pompes, et que je trouve quand on a des privilèges, et Dieu sait que j'en ai en étant un homme blanc, cisgenre, bourgeois, avec une certaine réussite, qui du coup, je trouve que la moindre des choses quand on a des privilèges, c'est de les partager. Et en tout cas de les questionner, et donc c'est plutôt une envie d'ouvrir les bras, de tendre les mains et de dire j'ai la chance d'aller bien et j'ai l'intuition que j'ai des petites clés pour que ça aille bien, donc comment est-ce qu'on donne ça au plus grand nombre.
Pourtant dans vos récits vous êtes assez iconoclaste, ce que vous dites sur, alors on va qualifier ça de milieu homosexuel, du moins la drague homosexuelle. Il y a quand même de gros machos là-dedans. Hein.
Ah oui, le macho, la bêtise, elle est dans tous les milieux. Donc, que ce soit l'homophobie intégrée qui vire à la folophobie. C'est ce que disait Badinter, ou pour revenir encore sur la chronique de tout à l'heure. C'est ce qui dérange chez l'homosexuel, c'est le féminin. Et la misogynie et l'homosexualité sont extrêmement cousines et voisines. Et donc, à cet endroit-là, nombre d'homos se réclament d'une virilité totalement iconique. Et donc du coup déteste ce qui va ressembler au féminin et se revendique d'une sexualité justement pénétrative et conquérante, surtout pas passive, vont féminiser toutes les autres postures et donc ça c'est très bien sûr qu'on n'a pas l'apanage du cerveau. Hein.
Oui, vous décrivez un milieu qui est fait de stéréotypes. Vous décrivez un milieu qui est fait de stéréotypes où chacun doit être dans sa case. Il y a ouais. Le gros viril, le gros macho.
Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça aussi, et c'est vrai qu'il y a. Quand on lit sur les sites de rencontres, il y a un super bouquin, Ce que Grindr a fait de nous, qui a été publié très récemment.
Grindr ?
Ouais, Ce que Grindr a fait de nous.
Oui, c'est une application de drague homosexuelle.
De rencontres homosexuelles, et qui est extrêmement frontal. Et je ne vais pas porter de jugement parce que je l'ai utilisé allègrement. Mais c'est vrai que quand on voit la façon dont les usagers s'y comportent, ce qu'on peut lire, c'est pas de blagues, pas d'arabes, pas de folles. Enfin, il y a vraiment un truc qui sectorise radicalement et redoutablement le rapport à l'autre en faisant des objets de consommation, donc qui vient raconter le consumérisme contemporain, le rapport à l'immédiateté qui est un peu triste, enfin qui est même tragique. Hein.
Finalement, ce qui est intéressant dans le fait que ce soit la parole d'un homme qui aime les hommes, c'est qu'on est, on devrait être au summum du progressisme, hein, puisque on l'a entendu tout à l'heure en 71, il s'agissait encore d'être autorisé à faire l'amour, hein, puisque en
bien
71,
sûr,
l'homosexualité était encore une maladie mentale.
C'est complètement. Considéré comme une maladie mentale. 82, c'était né de ma naissance, ça, pour qu'on arrête de effectivement psychiatriser et que le chemin est long, et on voit bien encore ce qui se passe à l'endroit des personnes trans aujourd'hui, que la pensée est extrêmement timide, fébrile, et qu'on se braque très rapidement et qu'il y a un soupçon d'avancée. J'ai l'impression que pour un bout de progrès, il y a 4 ans en recul qui se font systématiquement. Donc oui, il y a un endroit, sinon d'avant-garde, en tout cas, de nécessaire évolution.
Au point où on est arrivé, c'est important de dire à nos auditeurs et futurs spectateurs de vos spectacles, La militance, oui, mais le rire avant tout. La légèreté et le théâtre. Il y a beaucoup de théâtre dans ce que vous proposez.
Et vraiment, c'est vrai que, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la militance qui vient aboyer ou crier ou engueuler ou militer, ce qui est ce truc de la rue et du cri et de la banderole, et qui, à cet endroit-là, est tout à fait légitime, voire indispensable. Sur un plateau, j'ai l'impression et l'intuition qu'il faut proposer autre chose. Donc effectivement, par le rire, par la poésie, par le geste, par le corps, le mouvement dansé, quand il peut être convoqué, ça me semble des bonnes façons d'enrichir la pensée militante. Et effectivement, le rire, pour le coup, est pour moi un vecteur fondamental, parce que je trouve que ça crée un état de détente qui rend extrêmement propice à accueillir de la pensée, à accueillir de la réflexion, à accueillir de la théorie. Et qu'on est, par cette détente-là physique, que vraiment procure le rire physiquement, beaucoup plus à même de partager ce qui est dit et de préparer le cerveau et la pensée.
À aucun moment, vous n'avez voulu édifier votre public et lui donner de lui faire la leçon.
Non, parce que déjà, de façon très pragmatique, je déteste, moi, en tant que spectateur, et je suis un spectateur compulsif, je déteste qu'on m'engueule et je déteste qu'on me crispe. Mais à l'inverse, comme j'ai vécu des épiphanies folles en me faisant inviter doucement, généreusement, tendrement, j'ai l'impression que... Enfin, moi, c'est le modus operandi que je préfère, ouais.
Quel est le retour que vous pouvez avoir? Votre spectacle a pas mal tourné, hein, un petit peu partout, entre autres à Avignon, à la Reine Blanche, à la Scala. Quel est le retour que vous avez? Comment vous avez... C'est un public qui est fédéré, hein, qui est relativement... vous n'avez pas de public spécialisé.
C'est assez magique. Ouais, ça, c'est un vrai plaisir. C'est qu'il y a un éclectisme assez remarquable dans les âges, dans les orientations, dans les milieux sociaux. Et ça, c'est vraiment très, très plaisant de voir que tout le monde peut s'y retrouver. Parce que ce qui est dit dans le récit d'émancipation, c'est aussi dès lors qu'on a vécu une forme d'oppression en tant que minorité, on peut se trouver là-dedans. Mais qui n'a pas vécu à un moment l'humiliation, la mise au banc? Qui n'a pas eu besoin de lutter pour essayer d'affirmer une parole? Et qu'on soit noir, blanc, maghrébin, musulman, hétéro, tout le monde peut avoir vécu ça. Alors, bien sûr, la figure adverse de l'hétéro blanc puissant, blond, aux yeux bleus, bourré de fric avec une grosse bite, lui peut-être souffre un peu moins de ça, mais les autres, du coup, tout le monde peut piocher.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le programme que vous écoutez est une rediffusion.
Tout a commencé... Il y a 6 mois, quand maman posait ses brise-bises, ses anneaux de rideau devant moi, ça m'a fait faire bien des bêtises. J'avais lu qu'à San Francisco, les gros durs s'en mettaient au sexe. Et quand se déhanche en disco, leur jean en était tout convexe. Le mien, il vient du BHV, il n'est pas en or, mais en cuivre. Et si je suis vert de grisé, je connais enfin la joie de vivre. Moi, je suis viril, je ne bats pas des cils. Mon profil est des plus érectiles, mon côté fragile, mon air malhabile, sur le fil, m'empêche pas d'être viril. L'anneau, c'était le premier pas, et bientôt, ce fut l'engrenage. L'un après l'autre, mes appâts durent accepter un esclavage. À mon oreille, j'ai fait river une jolie perle en galalite. En haut de mes reins, on a tatoué, occasion à saisir de suite. L'un de mes deux seins est bagué, et pour celle-ci, je porte une chaîne. Ce n'est peut-être pas très distingué, mais j'aime tant sentir votre haine. Car être viril, c'est plein de périls. La grande ville souvent nous est hostile. Il y en a que j'horripile, d'autres qui jubilent. Imbécile, parce que je suis viril. Les gros cubes étant hors de prix, pour échapper aux gens honnêtes. Quand loin des foules je m'enfuis, je ne fais brombir ma mobilette. Pareil pour le cuir, c'est du sky qui me moule ainsi qu'une gaine. Et s'ils parlent d'épouvantail, c'est qu'ils envient tous ma dégaine. Mais j'ai beau n'être qu'en plastique, je me ruine quand même embarras à nœud. Nous les machos faut qu'on s'astique, le blouson, le poing, la banane. Quand on est viril, on se fait de la bile, très fébrile entre nos ustensiles. Qu'on soit scatophile ou faiseur d'idylle, pas facile d'être vraiment viril. À 6 heures, je sors du bureau pour aller me taper de la gonflette. Puis je consulte les bons journaux afin d'y faire mes petites emplettes. Moustachu cherche baraqué pour bonne baise sous toutes les formes. Sapeurs et gendarmes souhaités s'ils peuvent garder leur uniforme. Après on se retrouve dans un bar où l'on peut faire des tas de manières. Parler d'Alida et de Béjart en sirotant des boîtes de bière. Nous les mecs virils de cuir ou de vinyle, notre babine n'ont vraiment pas de style. Si notre évangile vous paraît stéril, voire débile, c'est que vous n'êtes pas viril. La 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 la.
Vous êtes sur Aligre FM 93, notre invité c'est Michael Delis qui prochainement proposera sa trilogie sur la virilité qui comprend le premier sexe, la fête du slip et les paillettes de leur vie au théâtre de la Reine Blanche. Vous me disiez en entendant Jean-Guy Denis, Michael Delis, que ça n'avait décidément pas changé les prototypes.
Non, c'est ça, complètement, c'est totalement d'actualité, c'est joli, c'est riant, on est heureux de découvrir ce morceau.
On l'a dit en introduction, vous êtes seul sur scène, il y a depuis quelques années une multiplication des seul sur scène, autobiographique. Vous avez une explication ?
Ah oui, bien sûr, il y en a plusieurs, je pense. Il y en a une très pragmatique, pratico-pratique, qui est que le seul en scène, quand on a 40 ans et qu'on n'a pas eu les rôles qu'on voulait, c'est une bonne façon de se distribuer pendant une heure et quart.
C'est une carte de visite. Hein.
C'est une carte de, ça peut être une carte de visite, c'est une petite revanche sur, sur les refus ou que sais-je. C'est aussi quelque chose de très concret par rapport à l'économie du théâtre, qui est extrêmement complexe et qui va en se durcissant avec ces baisses drastiques de subventions, de soutien.
Vous vous êtes distribué dans des théâtres privés, hein, excusez-moi.
Oui, privés, et pas que. Pour le coup, on a des soutiens de scène nationale. J'ai la chance d'être dans un endroit assez niche et génial entre le privé et le public. La Reine Blanche, la Scala, un peu comme le Saint-Martin aussi, qui ont cette intelligence d'aller piocher ici et là leurs inspirations en prenant parfois un Joël Pommera au Saint-Martin. Beaucoup de projets subventionnés par la DRAC à la Reine Blanche.
La Direction régionale des affaires culturelles.
Exactement. Et la trilogie, pour chacun des volets, a reçu le soutien pour les aides à la création. Et donc, oui, là, l'idée, c'est... Moi, j'aime beaucoup cet endroit-là, de dire qu'il n'y a pas cette opposition entre un théâtre privé hyper cher pour des gens vieux, riches, qui doivent juste se divertir, versus un théâtre un peu un télo de laboratoire pour un truc de niche. Et donc, voilà, il y a un endroit de résolution qui me plaît. Et que j'aime beaucoup défendre.
Alors jusqu'à présent, ces seules en scène, ils étaient essentiellement féminins, hein, globalement.
Oui,
Élise Noirot.
Ouais, oui, complètement. Autres. Ah oui, pardon, je termine quand même juste sur ce truc-là. C'est que sur l'essor du seul en scène, c'est aussi que Avignon, les tournées, que sais-je, quand on est seul avec un tabouret et une craie, on peut aller partout. Dès lors qu'on n'est plus de 3 ou 4 comédiens à Avignon, ça devient une ruine parce qu'il faut loger, il faut nourrir les gens et qu'il faut les payer et que du coup le théâtre étant de plus en plus frappé par le manque d'argent, ça oblige à rétrécir les productions jusqu'à surfavoriser aussi le seul en scène. Et en plus on a vu à côté l'essor du stand-up qui devient aussi une vraie nourriture pour le théâtre.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu que le théâtre du National de Strasbourg
vient d'en programmer. Et c'est génial qu'elle fasse ça. Parce que moi, je trouve ça étonnant, effectivement, qu'on boude ça. C'est quelque chose qu'on... Moi, je viens du théâtre public. C'est des choses qu'on m'a dites en scène nationale. Ton spectacle est génial, mais c'est trop drôle pour nous. Ou c'est vachement bien.
C'est
mais...
trop drôle pour le théâtre public. Ah, c'est ouais, ce que vous êtes en train de dire.
On m'a dit ça une fois. Alors, pas tous, hein, mais j'étais effaré quand on m'a dit ça. Et je dis, donc en fait, c'est quoi ? Il faudrait que je vous engueule et que je vous tape dessus et que je vous fasse pleurer pendant des heures. Et surtout que je disais, voilà, ça en plus boudait quelque chose qui est quand même un phénomène de société depuis plusieurs années, qui est le stand-up ou l'humour. Et je trouve ça vraiment assez bête et triste et réducteur, quoi.
Michael Delis, il me reste à vous remercier. Et rappelons que votre trilogie sera bientôt jouée au Théâtre de la Reine Blanche. On précisera les dates tout à l'heure, et également à Avignon.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
C'est la semaine japonaise sur Aligre FM 93.1 et nous, on a décidé de parler très logiquement du théâtre japonais. Jérôme Vaquier, bonjour.
Bonjour.
Semblerait-il, vous m'avez dit en préparant cette émission, qu'il y avait quatre sortes de théâtre japonais. On terminera par le Naogaku, qui est votre spécialité. Mais commençons par le plus connu de nos auditeurs et de moi-même, le Kabuki. En résumé, en deux lignes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les quatre formes de théâtre traditionnel dont on parlait, ce sont les formes donc traditionnelles. Et donc, il y a effectivement le Kabuki, qui est peut-être le plus connu ici en France, ou quand les étrangers vont assister à des spectacles au Japon. Donc, c'est un théâtre qui est codifié, où les acteurs sont extrêmement maquillés, et chaque élément du maquillage va correspondre à une typologie de personnage. Il y a de nombreux décors dans ce théâtre de Kabuki, avec c'est assez chargé au niveau des décors. Et il y a aussi en fait des musiciens dans le théâtre Kabuki, dont le shamisen, qui fait partie de cet instrument primordial pour le Kabuki. Et les acteurs qui vont interpréter des rôles féminins sont nommés des onagata, en fait, donc l'acteur, puisque ce sont des familles d'acteurs jouées donc par des hommes, et quand un homme joue interprète une femme, en fait, il va signifier la femme par sa gestuelle et aussi dans le maquillage, et donc on a des onagata. Après, donc, il y a un répertoire de théâtre kabuki, mais par exemple, il y a aussi des expérimentations où moi j'ai pu voir au Japon Hamlet.
Oui, parce que vous avez séjourné au Japon, vous avez intégré une troupe de théâtre japonaise en tant que comédien professionnel. On reparlera tout à l'heure de votre expérience. Donc, vous parlez du en expert.
En fait, j'apprécie énormément le théâtre traditionnel japonais, comme beaucoup de Français, puisque Paul Claudel, par exemple, a été aussi un ambassadeur au Japon. Il a écrit beaucoup sur le théâtre japonais. Ariane Mouchkine, qui a découvert un acteur de Kabuki, c'est ce qui lui a donné envie de faire du théâtre. En fait, il y a énormément de collaboration entre les Français et les Japonais, puisqu'il y a en fait un lien très fort artistique. Et donc, ce théâtre traditionnel codifié est pour moi essentiel dans ma pratique de théâtre aujourd'hui, en tant que directeur de compagnie.
Le Bunraku est un autre théâtre, est une autre forme de théâtre traditionnel, faisant appel aux marionnettes, c'est ça ?
Oui, exactement. Le Bunraku, donc, qui est né à peu près à la même période que le Kabuki, donc au XVIIe siècle, est un théâtre de marionnettes où, effectivement, il peut y avoir trois manipulateurs. Un manipulateur va s'occuper de la main gauche, un autre de la main droite.
Trois manipulateurs par marionnette, hein. Par personnage.
Comment ?
Trois manipulateurs pour une même marionnette.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est aussi un théâtre extrêmement codifié. Il y a aussi donc le conteur et un joueur de shamisen. Donc on retrouve le même instrument de musique que dans le Kabuki, dans le Bunraku. Et c'est un théâtre marionnette qui est aussi enseigné très souvent à l'école de marionnettes à Charleville-Mézières. Ici en France, ça fait vraiment partie de la tradition de la marionnette.
Alors parlons maintenant de votre spécialité à vous, le Nogaku. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le Nogaku, ça comprend le théâtre No et le théâtre Kyogen. Donc le théâtre Kyogen, ça signifie parole de divertissement. Donc c'est entre deux pièces de No, il y a toujours une pièce de Kyogen. Donc ces deux formes de théâtre se jouent sur la même scène. Mais ce sont en fait des formes très différentes, puisque le no fait appel surtout au chant et à la danse, et va raconter des histoires, ou va raconter en fait des pensées philosophiques. Et alors que le Kyogen est plutôt un théâtre très concret, avec donc qui représente plutôt la vie quotidienne du Moyen-Âge, puisque ces deux théâtres sont nés au XIIIe, XIVe siècle, par Kanami et Zeami. Et donc, il va y avoir plutôt ça fait plutôt référence soit un peu à la Commedia dell'arte ou alors aux farces du Moyen-Âge, comme les farces de Maître Patelin. Donc, on a le Kyogen où il y a des histoires entre maître et valet, le valet va être plus intelligent que le maître, ou les histoires d'adultère, de soulographie, des histoires vraiment plus concrètes, en fait, qui, l'homme dans ses qualités, mais aussi ses vices et ses problématiques. Alors que le no, qui est plus... on va avoir référence à des personnages qui reviennent sur Terre pour offrir un cadeau au monde des humains, pour offrir une pensée au monde des humains.
Donc
en
le
tout cas, ces deux théâtres sont joués sur la même scène, donc une scène qui est de 5,40 m de côté, où il y a un pont qui s'appelle Ashigakali quand on regarde la scène qui est sur la gauche, donc à Jardin. En fait, cette scène dans le théâtre No représente le monde, puisqu'on ne parle pas mais on parle des points cardinaux. Donc l'acteur rentre à l'ouest, à l'est les musiciens entrent à l'est, donc le public est au sud, et le fond de scène qui est représenté par un seul et même décor, qui est un pain qui est peint en fond de scène, représente le nord. Et donc cette scène carrée représente le monde, représente le monde, et donc on va raconter le monde sur cette scène de théâtre No et de théâtre Kyogen.
Donc toutes ces formes sont extrêmement codifiées. Vous m'avez dit en préparant cette émission que dans le No il y a 5 thèmes, et qu'il y a un répertoire de 250 pièces qui ont été créées. Ça veut dire qu'on reprend tout le temps le même répertoire, une espèce de comédie japonaise, comme il y a la comédie française.
C'est une tradition où finalement on devient acteur par mimésie, c'est-à-dire qu'on reproduit ce que le maître nous enseigne, et en fait, il n'y a pas de très peu de répétitions. Les acteurs répètent deux fois, trois fois, et ensuite ils jouent, puisqu'ils sont censés connaître le répertoire. Et c'est vrai qu'il y a, en fait, à l'époque, c'était une journée de théâtre, et donc il y avait 5 pièces de théâtre No qui sont intercalées par 4 pièces de théâtre Kyogen, et qui font référence d'abord à une pièce de dieu, ensuite à une pièce de guerrier, une pièce de femme, une pièce de femme folle et une pièce en fait de démon, puisque ça fait référence à un principe très important dans le théâtre japonais, c'est jo-ha-kyu. Jo, c'est ouverture, ha, développement, et kyu, finale. Et donc la pièce centrale, la pièce de femme, qui représente le ha, le développement, c'est là où le spectateur était le plus concentré, donc c'était la pièce la plus importante qui était présentée à ce moment-là.
Terminons dans les 3 minutes qui nous restent, Jérôme Vaquier, par votre expérience à vous. Une fois de plus, lorsque je vous ai appelé pour préparer cette interview, vous m'avez dit que vous aviez été hébergé dans une famille de comédiens. Apparemment, le théâtre, c'est une histoire de famille au Japon.
Oui, en fait, donc il y a des familles. On devient acteur de père en fils. Ensuite, il y a quelques acteurs qui sont intégrés dans les familles, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui pratiquent le théâtre traditionnel japonais. Et des fois, il y a des familles qui repèrent en fait des étudiants qui vont pouvoir les intégrer dans leur propre famille. Personnellement, j'ai été amené à vivre une expérience assez incroyable, c'est-à-dire que j'ai été boursier du ministère de la culture japonaise, enfin le Bunkacho, l'agence de la culture japonaise, pour aller étudier cet art, et donc j'ai été introduit dans une famille, la famille Nomola, pour travailler la codification et les formes du théâtre japonais traditionnel Kyogen, voilà, la partie humoristique. Donc pour moi, c'était extrêmement important au moment où je l'ai fait, de travailler sur la codification, la gestuelle, puisqu'il me semble que la forme au théâtre, sur un plateau de théâtre, peut être aussi extrêmement important, autant que finalement les émotions ou la psychologie des personnages ou les non-personnages aujourd'hui. Cette expérience était magnifique. Ouais.
Cette forme-là, vous la transcriviez de temps en temps dans certains de vos spectacles. Je me souviens de Jeanne que vous avez montée, je crois, en 2024, dans laquelle vous aviez cette espèce de petit pont, de passerelle qui parcourait votre plateau.
Oui, en fait, je m'inspire encore de cette expérience que j'ai pu avoir au Japon, mais en fait, c'est ancré en moi, c'est pas forcément tout le temps volontaire de vouloir imposer un style japonais ou japonisant, mais en fait, c'est vrai que cette partie de ma vie, puisque j'ai vécu 3 ans et demi au Japon, est encore en résonance dans ma créativité, dans mes réflexions de création. Mais en fait, dans beaucoup de spectacles, puisque par exemple, dans la pièce du Soulier de Satin, il y a le pont, le Hashigakali du théâtre japonais est présent. Bon, alors, personne ne pense au théâtre japonais, ou très peu de personnes, mais en tout cas, l'influence du théâtre traditionnel japonais qui étonnamment perdure depuis 8-9 siècles et qui n'a pas bougé depuis ce temps-là, a une force, a un impact très important et très impressionnant.
Jérôme Vaquet, on va vous remercier. Rappelons que vous êtes comédien, metteur en scène et que vous dirigez la compagnie des Lucioles, qui est une compagnie des Hauts-de-France. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur Aligre 93.1 et vous êtes à l'écoute de Radio Scénique. Radio Scénique, votre émission sur le théâtre, sur l'antenne de cette très belle radio. Pascal, lors d'une précédente émission, nous avons eu un aperçu du théâtre grec de l'Antiquité. Et on va aujourd'hui faire un tour chez les Romains, après être allé voir chez les Grecs.
Bien sûr, l'architecture du théâtre des Romains est l'héritage de l'Antiquité grecque. Nous avons vu que les amphithéâtres grecs s'adossaient à un relief en pente afin d'y établir des gradins, donc le théâtre ne se trouvait pas forcément dans la ville. Chez les Romains, celle-ci est très structurée. Elle est bâtie sur un plan en damier rigoureux dans lequel sont implantées d'un côté des zones d'habitation et de l'autre des édifices publics parmi lesquels sont les théâtres. D'autre part, la ville romaine est plutôt construite en plaine, Rome en étant l'une des exceptions.
Alors qu'est-ce qui différencie fondamentalement le spectacle des Romains de celui des Grecs ?
Eh bien, tout d'abord, rappelons que la République romaine commence à peu près à l'époque de la naissance du théâtre en Grèce, c'est-à-dire vers 500 avant Jésus-Christ. Cette situation perdure 500 ans, puis arrive l'Empire, qui dure encore presque autant. Rappelons aussi que Rome, dès le départ, c'est la civilisation du spectacle. En fait, pour les Romains, le théâtre a toujours été grec, et ce qui les fascinait, c'est qu'il y avait des intrigues. Contrairement à leur propre spectacle, qui était plutôt des farces militaires, des satires rurales, et des pantomimes et des jeux. En -241, la Sicile est conquise et devient la première province romaine. Les arrivants y découvrent le théâtre grec et celui-ci ensuite est adapté à Rome. La scène est agrandie, la façade de scène est plus haute que pour le skéné du théâtre grec. Elle devient une sorte de grand présentoir à décors et accessoires. Au début, tout est en bois et démontable. Le public reste debout. Sénèque est le seul auteur tragique romain dont on connaît les pièces, parmi lesquelles Œdipe, Phèdre et Médée, avec des sujets provenant des pièces grecques. Plaute et Ménandre sont les auteurs des plus connus concernant la comédie, qui est nourrie d'histoires de famille et de jeux de mots. Molière et Shakespeare sont leurs héritiers. En l'année -55, Pompée fait construire le premier théâtre en pierre près du Champ de Mars à Rome. À cette époque, la comédie est morte et la tragédie moribonde. Il faut plutôt parler de spectacles de variété. Les théâtres en pierre se veulent des théâtres grecs améliorés et conservent le plan en demi-cercle. La piste ronde qui était réservée au chœur, l'orchestra, est aménagée avec des sièges pour les notables qui peuvent ainsi se rapprocher de la scène. Les édifices sont construits au cœur des villes et s'affranchissent d'une colline pour disposer des gradins. Ceux-ci reposent sur des structures qui, depuis le sol, intègrent les galeries qui conduisent au vomitoire, ceci permettant l'accès du public à l'amphithéâtre. On assiste à la représentation en plein air, mais à l'abri du soleil grâce à un vélum tendu au-dessus des gradins.
Alors, il ressemble à quoi cet édifice une fois qu'on y est rentré ?
Alors pour décrire le théâtre romain, je propose que l'on prenne l'exemple de Sabrata, qui est une ville de colonie située en Libye, à l'ouest de Tripoli. Ce serait un don de l'empereur Septime Sévère au début du 3e siècle après Jésus-Christ. Le théâtre de Sabrata a été entièrement restauré par Giacomo Capoto, architecte italien, pendant la dernière colonisation du pays par les Italiens. Et il fut inauguré en 1937 en présence de Mussolini lors d'une représentation de l'Œdipe roi de Sophocle. L'édifice est remarquable par le fond de scène monumental constitué d'une colonnade sur trois niveaux laissant passer la vue au centre vers le paysage marin à l'arrière-plan. Les gradins sont adossés à une ceinture de pierre selon un plan en demi-cercle sur deux étages au-dessus d'un rez-de-chaussée par lequel on entre par de grandes ouvertures en arcades. Le mur extérieur est rythmé par des pilastres avec des chapiteaux de trois ordres, dorique, ionique et corinthien. Les statues ont disparu, mais il reste des reliefs sculptés du pulpitum, c'est-à-dire un soubassement en forme de niche arrondie et rectangulaire constituant la base de la scène et la limite de l'orchestre. On y voit des reliefs sculptés dans le marbre, figurant des scènes de spectacle à la mode romaine, des figures mythologiques et des allégories politiques. Il faut imaginer aussi que ce théâtre construit en grès était recouvert de stuc, une sorte de plâtre, peint de couleurs vives et orné de dorures. On peut donc conclure que si, pour l'organisation spatiale et la forme générale, le théâtre romain s'inspire grandement du théâtre grec, il n'est plus adossé au relief. Il devient un édifice autonome, intégré à la ville. Il fait partie des principaux monuments. Il est aussi beaucoup plus architecturé, plus sophistiqué et richement décoré.
Fin de cette 14e, et oui déjà 14e édition de Radio Scénique, votre magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Aligre FM 93.1. Merci à nos invités, merci à Michael Delis. Sa saga sur l'homme, la virilité et la transmission sera programmée du 13 mai au 15 juin au Théâtre de la Reine Blanche. Et notez que les 7 et 8 juin, vous pouvez réserver votre journée entière, la trilogie composée des pièces Le Premier Sexe, décidément, La Fête du Slip et Les Paillettes de leur vie sera jouée en intégralité de 17 à environ 21h. Merci à Jérôme Vaquier qui nous a éclairé sur les théâtres japonais. Il n'a pas de spectacle orienté Japon en ce moment, mais on mettra la programmation de sa compagnie, la compagnie des Lucioles, en ligne sur notre site. Vous retrouverez en effet sur la page de notre émission toutes les informations vous permettant de retrouver l'actualité de nos invités. Ces informations ainsi que le podcast de l'émission de ce jour, c'est sur le site aligrefm.org, émission Radio Scénique. Concernant mon équipe de ce jour, merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté et a concocté la programmation musicale de cette 14e édition, je le disais. Pascal Duterte était à la chronique, merci à lui. Merci également à Loïs Galland, notre nouvelle recrue qui viendra régulièrement au micro de Radio Scénique pour nous faire profiter de sa plume radiophonique. Et désolé pour cette voix d'outre-tombe due à une quasi-aphonie. Côté technique, un grand merci à Enrico Mastrogiovanni Loreda Farina qui était aujourd'hui derrière la vitre. On se retrouve le 26 mai pour une nouvelle édition de Radio Scénique. Il est 10h55 et une poignée de secondes. Et après le théâtre de Radio Scénique, vous retrouverez à 11h toute l'équipe de Vive le Cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le programme que vous venez d'écouter est une rediffusion.